France Internationale, 14h30, ici à Paris, midi et demi, en temps universel, toute l'actualité du continent africain, Afrique Midi, avec vous Nicolas Sûr. Bonjour Nicolas.
Bonjour Stéphane Genest, bonjour à toutes et à tous. Le président Paul Biya de retour au Cameroun. Son absence au cours des dernières semaines avait alimenté les spéculations quant à son état de santé. Et ses prochaines apparitions seront, à n'en pas douter, très scrutées. Le projet de nouvelle constitution dévoilé hier soir au Gabon, il consacre un régime présidentiel et une stricte limitation du nombre de mandats. Le texte sera soumis à référendum le 16 novembre prochain.
Et nous verrons ce qu'en pense le chercheur Bergès Smiété. Il est l'invité d'Afrique Midi.
Et puis l'Union européenne pointe des irrégularités dans le processus électoral au Mozambique. La tension est haute. Plus de 10 jours après les élections générales, une manifestation a été réprimée hier. Tandis que le candidat Venancio Mondlane accuse les forces de sécurité d'avoir assassiné son avocat. Paul Biya est au Cameroun. Le président est rentré hier sous les caméras de la CRTV, la télévision nationale, après 7 semaines d'absence. Sa dernière apparition publique jusqu'ici remontait à sa participation au dernier sommet Chine-Afrique de Pékin. Polycarpe Essomba, que va faire à présent le chef de l'État? Que sait-on de son agenda?
Dans l'immédiat, rien d'officiel n'est annoncé, mais des sources proches à la présidence de la République évoquent un président au travail. Même depuis Genève, où il vient de passer reclus ces 7 dernières semaines, il recevait des Yaoundé, des piles de dossiers et des paraffeurs qu'il retournait déjà traités à diverses administrations, croit savoir les mêmes sources. Mais plus probable encore, et compte tenu de son âge, 91 ans, et des ennuis de santé qu'on lui prête, nombreux estiment que le président va y aller à l'économie et devrait poursuivre sur place à Yaoundé le repos qu'il s'est autorisé à Genève. Dans l'activité du gouvernement, un dossier devrait particulièrement retenir son attention, c'est la préparation en cours du projet de loi de finances pour l'exercice budgétaire 2025. L'agenda politique immédiat, c'est la célébration le 6 novembre prochain de son accession à la magistrature suprême. Le 6 novembre 1982, Paul Biya prenait en effet la suite de Ahmadou Ahidjo comme deuxième président de la République du Cameroun. 42 ans plus tard, il y est toujours et la date est généralement l'occasion de célébrations et diverses réjouissances de la part des militants et sympathisants de son parti, l'ORDPC. Une fête pour lui, mais qui se fait depuis des années sans lui, le président ne faisant souvent aucune apparition ni déclaration. Mais cette année, compte tenu du contexte qui précède cette célébration, d'aucuns font le pronostic que Paul Biya pourrait rompre avec cette discrétion et faire une apparition qui ravirait ses soutiens. Polycarpe Essomba, Yaoundé, RFI.
Dans l'est de la RDC, la nouvelle offensive de l'Alliance Fleuve Congo, l'AFC, la coalition rebelle à laquelle appartient le M23 au nord Kivu. 2 localités stratégiques sont tombées sous son contrôle ce week-end, celles de Kalembe et d'Iloua, distantes de moins de 10 km l'une de l'autre dans le territoire de Walikale, avant une contre-offensive des milices Wazalendo alliées à l'armée congolaise, Patient Ligodi.
Ces positions stratégiques situées dans une région riche en carrières d'or et des cassitérites rapprochent les affrontements davantage de Pinga, la plus grande agglomération de la zone située à 30 km de là. Les crépitements des balles étaient encore entendus ce mardi matin. Ces actions interviennent en plein cessez-le-feu signé entre Kinshasa et Kigali. Mais l'AFC, par la voix de ses cadres, affirme ne pas se sentir lié par cet accord. Les troupes rebelles disent ne respecter que leur propre cessez-le-feu unilatéral qu'elles avaient elles-mêmes proclamé. Les combats des derniers jours sont, selon l'AFC, une réponse à ce qu'elle qualifie de provocation des milices Wazalendo. Des sources locales indiquent que l'objectif final de cette nouvelle offensive des troupes de l'AFC serait de tenter d'absorber les milices locales et de poursuivre leur progression dans la région. Du côté du gouvernement congolais, on réaffirme qu'il n'y a pas de négociation possible en dehors du cadre fixé par le processus de Luanda, mécanisme qui régit les discussions entre Kinshasa et Kigali. Les autorités congolaises disent d'ailleurs attendre de la part de la facilitation d'ici au 26 octobre une proposition des concepts des opérations, un document stratégique censé refléter les préoccupations des deux parties. Reste à savoir si cette nouvelle dynamique militaire sur le terrain influencera la suite du dialogue diplomatique. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Oui, le président angolais redouble d'efforts pour relancer le processus de paix. Il s'était entretenu ce week-end par téléphone avec les présidents rwandais et congolais. Au Gabon, on connaît enfin la version définitive du projet de nouvelle constitution. Il a été rendu public hier soir. Le texte sera soumis à référendum le 16 novembre. 173 articles. pour un projet de régime présidentiel qui renforce toutefois les limitations de mandat, François Mazet.
Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution. Ce dernier point, nouveau dans la version finale, renforce la demande fondamentale des acteurs politiques, la limitation du nombre de mandats et l'intangibilité de cette règle. L'article 169 prévoit en effet qu'il ne peut faire l'objet d'une révision. Autre point sujet à débat, les critères d'éligibilité sont légèrement édulcorés. Un seul parent gabonais, lui-même né gabonais, est désormais nécessaire au candidat, contre les 2 parents dans la première version. Même chose pour l'époux, qui ne doit lui aussi avoir qu'un seul parent né gabonais. Une limite est ajoutée à cet article 43, référence évidente à l'histoire du pays. Le conjoint et les descendants d'un président de la République ne peuvent se porter candidat à sa succession. Le régime est présidentiel, le chef de l'État est assisté de 2 vice-présidents, il détient le pouvoir exécutif, peut dissoudre l'Assemblée. Les parlementaires, eux, n'ont qu'un moyen de rétorsion, la mise en accusation devant la Haute Cour de justice pour violation du serment ou haute trahison. Cette notion n'est plus définie, ce qui permet théoriquement d'en élargir les conditions d'utilisation.
Et dans une lettre ouverte jointe au projet, le Premier ministre gabonais Raymond Dong Sima exhorte ses concitoyens à en discuter et à se l'approprier avant le référendum. Il dit également espérer une majorité franche autour de ce texte. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, on appelle le chercheur Bergès Mieté de l'Université de Libreville. Il est notre invité. 10 jours après les élections générales au Mozambique, dont on attend toujours les résultats définitifs, la mission d'observation de l'Union européenne pointe des irrégularités dans le processus au lendemain d'un appel à la grève et d'une manifestation réprimée par les forces de l'ordre. La tension politique monte, Gaëlle Lalex.
La mission d'observation européenne a constaté des irrégularités lors du dépouillement et des modifications injustifiées des résultats au niveau des bureaux de vote, écrit le communiqué. Près de 180 observateurs européens ont été déployés dans tout le Mozambique le jour des élections générales. Mais lors des opérations de dépouillement, certains ont été refoulés des bureaux, y compris au niveau national. Ces déclarations donnent du grain à moudre au candidat Nansiou Mondlan. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook ce matin, il appelle à 2 nouvelles journées de mobilisation les 24 et 25 octobre pour paralyser le pays. La manifestation d'hier a tourné court. Les forces de l'ordre ont très vite dispersé les rassemblements avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Venansiou Mondlan lui-même en a fait les frais devant son siège de campagne. Hier, dans une autre vidéo, il a accusé les forces spéciales mozambicaines d'avoir tué son avocat, assassiné vendredi avec un autre proche du candidat. Dans la soirée, les États-Unis ont condamné ces meurtres. Nous nous joignons aux partis politiques du Mozambique pour demander une enquête, écrit leur communiqué. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Au Mali, des frappes de drones attribuées à l'armée malienne ont tué hier 5 civils, dont 4 enfants, à Inadjatafane. On est dans le cercle de Gourmararousse, dans la région de Tombouctou. David Bachet, de nombreuses sources locales dénoncent une nouvelle bavure. Et les images sont très éprouvantes.
Un bébé ensanglanté, tétanisé, un enfant allongé en train d'être soigné, tant bien que mal. Des habitants d'Injatafan ont filmé les images terribles des victimes. 5 civils tués, parmi eux 4 enfants, dont un nourrisson, et une vingtaine de personnes blessées. Un bilan provisoire, l'état de santé de certains blessés étant préoccupant, fourni par l'association de défense des droits humains Kalakal, et qui correspond aux informations reçues par RFI de nombreuses sources locales, souvent membres ou proches de la rébellion du CSP. Selon ces sources, les frappes de drones ont eu lieu aux environs de 12 heures locales pendant la foire hebdomadaire d'Injatafane. Outre les victimes humaines, le marché a été fortement endommagé. L'armée malienne n'a pas communiqué sur cette opération et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite. Mais une source sécuritaire malienne confirme ces frappes ont bien été opérées par l'armée et les victimes sont clairement des civils. À Tinzawaten, il y a 10 jours et avant cela pendant l'été, à Amasraka depuis Douna en mars dernier, à Kidal en novembre de l'année passée, nombreux sont les cas de frappes de drones de l'armée dans lesquels périssent des civils maliens. L'état-major dément systématiquement, assurant viser des cibles terroristes et dénonçant à l'occasion les fausses informations des médias internationaux.
Au Burkina Faso, Médecins sans frontières décide de la fermeture provisoire de l'une de ses missions à Djibo dans le nord du pays. MSF invoque une multiplication d'incidents sécuritaires dans cette localité cernée par les groupes djihadistes. Frédéric Gara.
Des structures médicales prises pour cible en novembre et en juillet dernier, un enfant tué par balle à un point de distribution d'eau, des installations sanitaires ou encore des points d'eau potable vandalisés ou mitraillés, les sujets de découragement et les arguments pour finalement se retirer de Djibo ne manquent pas. L'un des points d'orgue étant la mort brutale le 2 septembre de l'un des employés de MSF dans des circonstances non encore élucidées. Autant d'éléments qui poussent Médecins Sans Frontières à se retirer provisoirement de cette ville du Nord et qui témoignent de la difficulté quotidienne des ONG, internationales comme nationales, à fournir du soutien matériel, sanitaire ou alimentaire aux populations prises au piège du terrorisme au Faso. Souleymane Drabo, membre du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales.
Il va de soi, lorsque on ne peut pas avoir accès chaque jour à nos transporteurs, il y a des difficultés parce que l'approvisionnement n'est pas régulier et compte tenu de l'insécurité aussi, il faut faire beaucoup attention, elles souffrent, les populations souffrent, nous le savons. Et en tenant compte aussi de l'insécurité, les forces de sécurité et de défense font beaucoup de déplacements, ils sécurisent les convois. Sans les forces de sécurité, c'est difficile. Il y a un impact qui s'ajoute sur la population, il y a manque de denrées, il y a manque de médicaments et il y a ses conséquences aussi.
Une insécurité sur l'action et les membres des ONG qui n'épargnent aucune zone au Burkina. Le 5 septembre, à Ouagadougou, ce sont deux employés de ACF, Action contre la faim, qui ont été portés disparus avant de réapparaître 15 jours plus tard.
Au Soudan, c'est un coup dur pour les forces de soutien rapide, les paramilitaires du général Emeti. Le général Abou Akla Kikel, le chef des forces appelées Bouclier d'Al Jazeera, active justement dans cet état d'Al Jazeera qui avait rejoint les FSR au début de la guerre, vient de faire défection. Il s'est rallié à l'armée soudanaise, Ouda Ibrahim.
Abou Akla Kikel s'est livré à l'armée avec un groupe de 370 combattants et 70 véhicules armés, mais ses forces se comptent par milliers. Selon plusieurs observateurs, sa défection des FSR pourrait faciliter l'entrée de l'armée dans l'est de l'État d'Al Jazeera. Les informations sensibles qu'il détient sur les FSR, leur organisation et leur ravitaillement constituent une mine d'or pour l'armée. Selon des sources militaires, les discussions avec Abou Akla Kikel pour réintégrer l'armée avait commencé l'été dernier avant d'être officialisé ce dimanche. Au début de la guerre, le chef des FSR lui avait confié la direction de ses forces dans l'état d'Al Jazeera. Tout comme les forces de soutien rapide, les forces du bouclier d'Al Jazeera, dirigées par Abou Akla Kikel, ont été créées par les renseignements soudanais du temps de l'ancien régime afin de soutenir l'armée. Par ailleurs, Kikel était sous le coup d'une enquête interne au sein des forces de soutien rapide depuis la mort en juillet dernier de Abdelrahman El-Bichi, un chef important des FSR dans l'état du Nil bleu.
Et justement, dans cet état d'Al Jazeera, un groupe pro-démocratie affirme ce matin qu'au moins 31 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne de l'armée sur une mosquée de la ville de Wad Madani. L'attaque s'est produite dimanche après les prières du soir. Plus de la moitié des victimes n'ont pas été identifiées, les secouristes s'efforçant d'identifier des dizaines de restes de corps carbonisés.
Afrique Midi sur RFI.
Et dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Nicolas, sur le sommet des BRICS.
Oui, le président russe Vladimir Poutine accueille le sommet annuel de cette alliance de pays émergents que le Kremlin souhaite voir concurrencer l'hégémonie occidentale. L'Afrique du Sud et l'Éthiopie en sont membres. Et puis les sports du basket, la NBA démarre la nuit prochaine. Pas moins de 5 Camerounais sont engagés dans le championnat nord-américain. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce mardi, en Côte d'Ivoire, le FPI de Pascal Affine-Guessant devant la justice ce matin. Un militant du parti, Pierre Daglo-Godet, demandait la suspension ou l'annulation du congrès prévu les 8 et 9 novembre prochains. Le juge a renvoyé l'audience à jeudi. Des frondeurs se font entendre au sein du FPI depuis que la direction du Front Populaire Ivoirien a annoncé la rupture de son partenariat avec le RHDP, le parti au pouvoir. Et puis des affrontements hier soir à Antananarive entre des dizaines de manifestants et la police malgache suite à une nouvelle coupure d'électricité. Jet de pierre contre gaz lacrymogène dans le quartier populaire d'Ambouipou. C'est la sécheresse et le manque d'eau qui provoquent des délestages à répétition depuis un mois sur la grande île. Les chefs d'État et de gouvernement font ce matin leur arrivée au premier sommet élargi des BRICS à Kazan, en Russie. Éthiopie, Égypte, Arabie Saoudite, Iran et Émirats Arabes Unis siégeront pour la première fois depuis leur intégration à cette alliance. Le sommet coïncide avec les 10 ans de la nouvelle banque de développement des BRICS, une banque présentée comme une alternative à la Banque mondiale, mais qui a toutefois, Marie-Ange Diallo, du mal à tenir ses engagements.
La Banque mondiale est décriée pour son manque de représentation, puisque jugée comme dominée par les Occidentaux, ou encore ses conditions de prêt perçues comme de l'ingérence. Y remédier tout en mettant fin à la domination du dollar, voilà l'ambition que s'était donnée la nouvelle banque de développement à sa fondation en 2014. Mais malgré les quelques prêts en monnaie locale comme à l'Afrique du Sud, Bruno Cabriac de la FERDI, Fondation sur les études et la recherche pour le développement international, constate qu'elle continue d'emprunter et de prêter en dollars. Quant aux conditions de prêt, ses difficultés de financement l'obligent à lever des fonds et donc dépendre des agences de notation pour attirer des investissements. Ainsi, pour améliorer sa note, elle se conforme aux critères de prêt semblables aux autres banques, comme la Banque régionale asiatique ou africaine. L'élargissement, qui permet certes l'augmentation des fonds de la banque, pose aussi la question de la répartition des droits de vote. Quelle part sera faite aux nouveaux arrivants, notamment l'Algérie ou le Bangladesh, membres de la banque mais pas des BRICS? Ainsi, 10 ans plus tard, il faut à minima constater une différence entre les annonces faites et le fonctionnement actuel de la banque.
Membre des BRICS également, l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est lui aussi à Kazan ce matin. Il a qualifié la Russie d'allié et d'ami précieux de son pays. Déclaration diffusée à la télévision russe après une rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine. Nous allons continuer de considérer la Russie comme un allié cher et un ami précieux, a déclaré le président sud-africain. Les sports du basket, la saison NBA démarre la nuit prochaine avec 2 affiches au programme. Le champion Boston Celtics accueille les NY Knicks dans la conférence Est avant le duel entre les Los Angeles Lakers et les Minnesota Timberwolves. Une NBA dans laquelle sont engagés pas moins de 5 Camerounais. C'est le contingent le plus élevé du continent africain, Baba Kardiara.
Et ça bouscule quelque peu les habitudes, le Nigeria étant d'ordinaire la nationalité la plus représentée dans la Ligue. Chez les têtes de gondole camerounaises, rien ne change. La santé de Joel Embiid sera le baromètre de Philadelphie dans la foulée d'une saison où il a disputé seulement 39 des 82 matchs de saison régulière. Quant à Pascal Siakam, incontournable dans le jeu à toute vitesse des Pacers d'Indiana, il continuera d'entretenir des rêves de deuxième finale NBA. Derrière ces leaders, d'autres fils du Cameroun se battront pour des rôles mineurs. La main tendue des Lakers apparaît comme une deuxième chance pour Christian Koloko, ex des Toronto Raptors, privé de NBA la saison dernière après une opération d'un caillot sanguin. À son poste, le pivot de 2m16 grignotera les minutes laissées par le champion olympique Anthony Davis. Son ancienne tunique canadienne sera portée par Ulrich Chomché, drafté en 57e position et premier membre de l'académie NBA au Sénégal à intégrer la Ligue. Il y a été couvé par le sélectionneur du Cameroun, Alfred Aboya.
Il est athlétique, il peut courir très vite, il peut défendre, il a le physique pour le faire. Je pense que ce sont ces caractéristiques-là qui lui permettront de faire long feu.
La défense, c'est aussi l'atout du bondissant Yves Missi, choisi en 21e par les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. À lui de confirmer les promesses des matchs de pré-saison.
Il est 14h48 à Paris. Stéphane Geneste, les grands titres de ce mardi 22 octobre 2024.
Le sommet des BRICS se déroule en ce moment en Russie, à Kazan précisément. Ce groupe de pays émergents qui devient les BRICS Plus avec de nouveaux États qui ont rejoint ses rangs. Le président russe Vladimir Poutine accueille une vingtaine de dirigeants étrangers, alliés ou partenaires pour ce sommet annuel. Anthony Blinken est arrivé en Israël. Le secrétaire d'État américain est en tournée au Proche-Orient pour la 11e fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Toujours en quête d'un cessez-le-feu, il veut capitaliser sur la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, tué par l'armée israélienne la semaine dernière. Au Liban, 13 personnes ont été tuées et 57 autres blessées dans une frappe israélienne près d'un hôpital de Beyrouth. Les recherches se poursuivent dans les décombres pour retrouver d'éventuelles victimes. En France, les députés ont entamé l'examen de la partie recette du budget de l'État pour 2025, budget qui prévoit 60 milliards d'économies, avec pour horizon une adoption sans vote via l'article 49.3 de la Constitution, faute de majorité pour le gouvernement à l'Assemblée nationale. Et puis du football avec la 3 troisième journée de phase de poule de la Ligue des Champions. 9 rencontres aujourd'hui au menu, notamment Real Madrid Dortmund et le Paris Saint-Germain reçoit le PSV Eindhoven à 19h temps universel. Au Gabon, le projet final de nouvelle constitution a donc été présenté hier soir. Il sera soumis à référendum le 16 novembre prochain. Bergès Mietté, docteur en sciences politiques, chercheur à l'université de Libreville et chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde du CNRS et de Sciences Po Bordeaux, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Bergès Mietté.
Oui, bonjour.
Quels sont les points qui retiennent le plus votre attention dans ce projet de constitution ?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'inverse de l'ébauche issue du dialogue national et celle qui avait fuité récemment au point de susciter d'ailleurs des vives réactions sur les réseaux sociaux, le projet de constitution rendu public hier a bien évidemment subi des amendements. On peut se féliciter que les autorités ont pris en compte un certain nombre de points clivants qui ont alimenté les débats dans le pays.
Lesquels ?
Parmi ces points-là, il y a d'abord la question de la séparation des pouvoirs. Il y a aussi les conditions d'éligibilité du président de la République.
Ils ont été adoucis par rapport à ce qu'on annonçait. Au départ, on annonçait que seul pourrait se présenter un Gabonais de père, de mère et de grands-parents gabonais. Finalement, ça n'est pas le cas, il faut seulement un parent gabonais. Est-ce que c'est selon vous parce que cela aurait exclu trop de personnalités des élections à venir ?
Oui, tout à fait. Il faut dire que le Gabon, c'est quand même un pays qui est en proie à l'immigration depuis plusieurs décennies. Et il est difficile à l'heure actuelle, déjà je ne sais pas si les données permettent d'avoir ces informations-là, combien de Gabonais de souche il y a exactement pour un pays qui est démographiquement peu peuplé, on puisse penser que pour être président de la République, en fait, il faut nécessairement avoir les deux parents gabonais, eux-mêmes à leur tour gabonais de souche.
Alors, un mot sur la nature du régime. Pas de Premier ministre, le chef de l'État détient le pouvoir exécutif, il peut dissoudre l'Assemblée. C'est donc un régime présidentiel strict.
Oui, c'est un régime présidentiel strict.
Que dire des moyens dont dispose l'Assemblée face au président ? Vous paraissent-ils satisfaisants ou trop limités ?
Je pense que c'est assez limité, puisque le président a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale et il n'y a aucune disposition à ma connaissance qui atteste clairement que le Parlement a le pouvoir de mettre en difficulté l'exécutif. C'est vrai aussi qu'il y a une disposition qui estime que dans un délai de 24 jours suivant le début de la législature, le président de la République ne peut pas procéder à une dissolution du Parlement.
Les parlementaires ont tout de même un moyen de rétorsion, si l'on ose dire, c'est la mise en accusation devant la Haute Cour de justice pour violation du serment ou autre trahison.
Oui, tout à fait.
Et ça vous paraît satisfaisant ? Ça vous paraît de nature à équilibrer les pouvoirs ?
Et je pense qu'il y a... Ce qu'il faut dire, c'est que la Constitution, le projet de Constitution tel qu'il se présente à l'heure actuelle, se structure autour de trois principaux blocs. On a l'exécutif, on a le pouvoir judiciaire et on a le pouvoir parlementaire. On aurait souhaité que, de la même manière que le président est élu au suffrage universel direct, qu'on puisse permettre, et je pense que c'est l'une des critiques qui a été formulée par certaines personnalités politiques au niveau national, qu'on permette au pouvoir judiciaire de s'auto-réguler. C'est-à-dire que de la même manière que les députés sont à leur tour élus, les députés et les sénateurs sont élus au suffrage direct pour les députés et indirect pour les sénateurs, mais que le pouvoir judiciaire, ceux qui incarnent le pouvoir judiciaire puissent être élus et non pas nommés. Pour prendre le cas spécifique de la Cour constitutionnelle, selon le projet de constitution, est composée de 9 membres, comme dans l'ancienne constitution. Avec pour particularité, c'est que le président y nomme 3 membres, le président de l'Assemblée national nomme 2, son homologue du Sénat nomme 2, et les deux autres, en fait, sont nommés par le Conseil suprême de la magistrature. Et ces 9 magistrats élisent un d'entre eux pour être le président de la Cour constitutionnelle. Donc, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une disposition qui permette l'élection des membres qui constituent la Cour constitutionnelle.
par leur propre père, par d'autres juges.
Oui, justement.
Les voix les plus critiques au Gabon s'étaient inquiétées d'un texte taillé sur mesure pour Brice Clotaire au Oligui Nguema. Au final, est-ce que c'est le cas selon vous ?
Je pense que pour comprendre le débat clivant et les dynamiques qui structurent la société gabonaise actuellement, il faut, me semble-t-il, remonter à l'année 90, date de la réhabilitation de la démocratie pluraliste dans le pays. Depuis lors, en effet, le Gabon est confronté à deux problèmes majeurs. D'une part, la question de la gouvernance de l'État et d'autre part, le respect des dispositions constitutionnelles. À ces deux éléments s'ajoute, j'ajoute volontiers, la question de la gabonité qui, depuis le décès d'Omar Bongo et l'annonce de la candidature d'Ali Bongo, cristallise les débats dans le pays. Ces trois facteurs pris ensemble permettent, de mon point de vue, de comprendre l'esprit et le contenu de ce projet constitutionnel d'une part et d'autre part les attentes et les critiques de certains Gabonais.
Donc en fait, cette constitution est largement le fruit de l'histoire du pays, selon vous ?
Oui, je pense que c'est vraiment le fruit de l'histoire dans la mesure où il y a un certain nombre de faits marquants que cette constitution-là tente d'apporter des palliatifs.
Merci Bergès Mietté. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Argent, c'est le titre du nouvel EP de Tchégué. Ce duo franco-congolais composé de Nico Dacunia et de Fatissi Savané revient 5 ans après son dernier EP, Téléma, plutôt avare en production. Tchégué brasse avec une énergie intacte des influences sonores qui vont du Kuduro au Kotazon congolais, en passant par le Zagué. Olivier Roger a rencontré Fatissi Savané.
Bah, y a des bassines, y a des bouts de bois, des cloches, mais qui sont pas forcément des vraies cloches. Ouais, y a vraiment des différentes sonorités. Tous les morceaux qu'il y a dans le pays ont plusieurs thèmes. Famille, de l'amour. Beaucoup d'histoires, en tout cas, de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ce rapport entre la religion, l'argent, l'amour, l'argent? Comment se positionner, en fait, pour garder un peu son intégrité et son humanisme? Le fait d'avoir grandi à Kinshasa et d'être arrivé ici, bon, bah, j'ai un autre état d'esprit, peut-être aussi une autre façon de voir la vie. Et ce côté un peu d'état d'urgence, où on a l'impression qu'on n'appartient pas vraiment à un endroit, toujours inspiré par tout ce qui se passe un peu ailleurs. C'est assez marrant parce qu'on n'a plus besoin de se parler, presque, quand on compose. Parce que même pour nous, on est même parfois un peu impressionnés de voir comment est-ce qu'on est hyper, hyper complémentaires, en fait.
Et c'est avec Tchégué que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Yasmine Boulan. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Dans 2 minutes, selon votre zone d'écoute, vous retrouvez Stéphane Genest pour le journal de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'infos en full day ou notre session en langue portugaise. À demain.
Ce mardi sur RFI.
Comment les odeurs agissent sur notre cerveau ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
L'odorat est notre tout premier sens, celui qui nous relie in utero déjà à notre mère, à la source de tous nos goûts et de nos dégoûts, aussi bien alimentaires que sensuels et sexuels. Pourquoi une odeur ou un parfum éveille tant d'émotions et de souvenirs ? Notre cerveau a-t-il du nez ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
comment rebondir après une rupture amoureuse, un examen raté ou un échec professionnel?
Jeudi,
on parle prévention et vaccination contre la polio.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. 8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Demain,
apprendre à lire est un véritable défi pour les enfants et une épreuve pour les parents. Est-il possible d'apprendre à lire en s'amusant?
Jeudi,
mode et création. Comment développer le potentiel de la filière cuir en Afrique?
8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.